Marc, pour cette incursion dans l'affaire du corps à corps. On a un bon moment de discussion. Je voulais juste commencer hein, pour lancer un peu. Je vois qu'il y a des liens tout à fait pertinents entre les trois exposés, des exposés forts, denses, mais aussi très travaillés. Et pour Michel, par exemple, je dis simplement que les rappels qu'il lui fait sur le fait que l'actualité de la névrose, c'est son actualité dans la cure, ça me semble d'une limpidité, d'une clarté qui mérite d'être rappelée. Après, sur la définition que Lacan donne de la passe comme coupure à double tour, dire de l'interprétation, c'est aussi quelque chose sur lequel. Moi, je voulais surtout questionner l'affaire de l'escabeau, Michel, parce que tu l'utilises d'une façon assez passionnante, comme quelque chose, enfin, une élévation au quatre dans le nœud, quelque chose qui vient combler le lapsus de départ, enfin le défaut de départ. Et puis tu finis par dire, finalement, en fin d'analyse, il s'agit de desserrer quelque chose, enfin de la structure. De la structure, si j'ai bien compris, qui a été mise en place grâce à l'escabeau, entre autres. Et tu donnes l'exemple du vitz qui serait ici à la place du lapsus du début. Et donc ma question, c'est enfin, est-ce que l'escabeau, en début, enfin, comme a priori de la structure, qu'est-ce qu'il devient, disons, dans une fin d'analyse. Voilà. Pour Miguel, je trouve extraordinaire cette description des nœuds à quatre, avec l'exemple précis du nœud à quatre où, enfin, c'est le nœud de l'inhibition, tu dis, où le terme fait faux trou avec l'imaginaire. Et donc, c'est l'exemple qu'on trouve et aussi, je pense que ta conclusion, ta façon de redire ce que présente Lacan, c'est de montrer comme le nœud d'origine, c'est-à-dire avec l'inhibition, se défait d'une certaine façon en fin d'analyse. Il y a un dessert, comme dirait Michel, et une autre façon de nouer les registres. En à sa place, c'est-à-dire.
On n'entend pas,
Patrick?
Oui, c'est bon, c'est reparti.
Ah. Je disais que voilà, la fin d'analyse de cet analysant de Lacan comme façon de desserrer le nœud pris dans l'inhibition et la constitution de nœuds différents. Pourquoi, voilà, cette affaire du corps à corps et de l'hystérie. Sinon, il obsessionnel, hystérique, Joyce. Et le symptôme dernier ou second, c'est vrai que c'est très, ça interpelle un peu. Donc, je voulais peut-être te demander si, quand tu dis une femme qui se fait corps, symptôme de notre corps, n'est donc ni symptôme dernier ni second, et bien sûr, tu rapproches ça de la position d'un analyste. Est-ce que c'est un symptôme, comme on l'appelait peut-être premier, ou ni dernier ni second? Voilà, ça c'est juste pour lancer la discussion et puis on donne l'occasion à tout le monde d'intervenir et de poser des questions. Donc, si vous voulez commenter un peu d'abord sur.
Ça crache, ok.
Michel, peut-être.
Oui, je veux bien. Bon, je peux?
Oui, bien sûr.
Je voudrais intervenir sur vos deux exposés et puis répondre à Radu tout à l'heure. Alors, je commence par ce qu'a dit Marc. Je trouve extrêmement important le dépliement que tu fais de ce que dit Lacan de façon extrêmement dense et concentrée dans cette conférence, plutôt dans ce texte sur Joyce le saint homme, qui est postérieur à la fin du séminaire sur Joyce, qui lui est postérieur d'une année, je crois, qui date de 1778. Et on voit bien à entendre ce que tu viens de dire, que Lacan pense avec le noborromien d'une façon nouvelle, la question même de la structure et de la clinique. On a beaucoup dit qu'on ne voyait pas trop les incidences cliniques des élucubrations borromiennes de Lacan, eh bien là, on en voit quand même quelques conséquences, et qui ne sont pas des minces conséquences, qui sont des conséquences colossales dans l'incidence que ça a sur notre façon de penser l'hystérie et ce qu'est une femme en tant que symptôme. Là, tu as bien montré que Lacan fait à partir, et c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est à partir, il le déduit en quelque sorte de son expérience du cas Joyce, de sa pensée borromienne du cas Joyce, concernant la question du corps, tout spécialement. Et là, il en vient incidemment, comme d'habitude, parlant du cas Joyce, à parler de l'hystérique et d'une femme, de la clinique différentielle entre une femme symptôme et une hystérique symptôme, mais de façon tout à fait nouvelle, tout à fait différente de ce qu'il a dit jusque-là. C'est ça qui est à appuyer, c'est que ça n'a pas grand-chose à voir avec ce qu'il avait dit précédemment sur le symptôme hystérique. Là, c'est la question même de ce que tu as dit, de l'événement de corps et de l'autre. L'autre, non pas le grand autre, il ne s'agit plus du tout du corps de l'autre avec un grand A, comme on l'avait entendu rabâcher depuis radiophonie. Il s'agit du corps de l'autre avec un petit A, et de l'autre, du petit autre réel dont il est question, dans la question même de l'événement de corps. Donc ça, c'est une nouveauté dans notre façon de repenser ce qu'il en est de l'hystérique et d'une femme. Et je te remercie de nous l'avoir bien fait entendre, là. Pour moi, en tout cas, je trouve qu'il y a du neuf, là. Je précise aussi, pour répondre à Radu, que c'est dans cette conférence que Lacan parle de l'escabeau, justement.
Oui.
Il introduit ce nouveau concept de l'escabeau de l'homme. Et bon, j'en ai fait un usage borroméen, ce que ne dit pas clairement Lacan, mais qui est quand même implicite dans cette conférence, pour dire que l'escabeau, c'est une façon nouvelle, là aussi, de parler du symptôme et du symptôme. Et qui dit et qui change la question de ce que l'on entend rabâcher sur le symptôme comme quatrième rond, parce que là c'est vraiment la question de qu'est-ce qui fait rater la marche de la structure, qu'est-ce qui fait rater la marche pour le névrosé, pour le psychotique, pour le pervers, qu'est-ce qui lui fait rater la marche, et la quatrième marche précisément, nous ratons la marche faute du dire. Et c'est la question même de l'escabeau. L'escabeau, c'est ce qui élève le dit au dire qui nous. C'est ce que j'ai essayé de dire. Pour répondre un brièvement, succinctement à ta question.
C'est très précis, là, de le dire comme ça, c'est très précis. Muriel
pour,
ah, pardon, pardon, vas-y, vas-y.
Pour toi, Muriel, j'ai beaucoup apprécié ton travail sur les nœuds à quatre, d'autant plus que j'ai, en 2006, il y a bien longtemps, j'ai fait un séminaire sur cette fameuse exposition Rouen où Lacan a fourgué ce manuscrit. Il se trouve qu'il y a il y a deux semaines, je parlais au téléphone, par hasard, une rencontre avec la curatrice qui a organisé cette exposition, Rouen à Marseille, qui est conservatrice de musée et qui m'a parlé justement de son rapport avec Lacan à cette occasion-là. Elle me disait c'est elle-même qui avait demandé à Lacan s'il voulait bien confier pour le catalogue un texte. Donc, en post-face, effectivement, et combien ça lui a été difficile de l'obtenir. Que Lacan, comme souvent, se faisait prier et que c'était in extremis à la dernière seconde qu'il lui a envoyé ce texte, si bien qu'ils n'ont pu le publier que comme ça, comme un fac-similé et non pas pour l'intégrer dans le catalogue imprimé avec les dessins refaits. Donc ça a été publié comme ça, vraiment à l'extrême limite. Et ce texte me paraît d'autant plus exceptionnel, c'est quand même le dernier texte de Lacan écrit. Hein, le dernier écrit de Lacan. Ça date de 78, c'est le dernier manuscrit de Lacan, qui, quand même, a un intérêt considérable sur les questions qui nous occupent aujourd'hui, à savoir la question du quatrième rond de l'escabeau. Là, Lacan fait, disons, un exercice topologique, un exercice d'écriture topologique. In vivo, en quelque sorte, il s'attache à voir comment, en l'écrivant en perspective, à la queue-leu-leu, comment les quatre ronds de ficelle peuvent se nouer. Or, il trouve que en travaillant à partir de l'empilement de trois ronds non noués, pour arriver à les nouer borroménement par un quatrième, qu'il dessine comme une sorte de banane qui vient couvrir le bord d'un des cercles, la moitié d'un des cercles. Il arrive à trouver qu'il y a quatre solutions de présentation dessinable. Oui. Sauf que, comme tu l'as très bien expliqué, ces quatre solutions se réduisent à deux. Les quatre sont des fausses solutions parce qu'il n'y a en fait que deux solutions. Il y en a deux des quatre qui se réduisent à la même. Oui, alors, c'est ça qui est intéressant. Pourquoi ? Parce que en 78, Lacan se rend compte, des visu, si je puis dire, que ce qu'il avait dit à la fin du séminaire RSI et juste avant le séminaire sur Joss, comme tu le dis, sur la nomination, sur l'indice nommant du quatrième rond, eh bien, il avait dit qu'il y avait trois possibilités de nouage. RSI par un quatrième, inhibition, angoisse, symptôme. Ça en fait trois. Et là, il dit non, il n'y en a pas trois, il y en a deux.
Oui, mais non.
Il n'y en a que deux.
Non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord.
Laisse-moi aller au bout. Non, il n'y en a que deux. En tout cas, c'est la conclusion de ce qu'il écrit. Pour cette exposition. Oui. Il n'y en a que deux. Parce que celle qui consiste à nouer par la nomination indice du réel, mm-hmm. en fait, n'est pas une nomination du réel, est une nomination qui revient à une nomination de l'imaginaire. Donc, il n'y a que le symptôme et l'inhibition qui permet à Nouaja 4. Pour nommer le réel, il faut passer à 5 ou à 6.
Bon, moi, ce n'est pas comme ça que j'ai lu les choses. C'est-à-dire que pour un empilement donné, il y en a deux. Mais il y a plusieurs empilements possibles. On peut empiler les trois, bon, disons, sans tenir compte de ce qui est en haut et de ce qui est en bas, disons, prenons que celui qui est pris en sandwich, hein, celui qui est au milieu. On a trois empilements qu'on peut... Hein, et donc, chaque empilement donne deux solutions de nouage par un quatrième. C'est ça que j'ai essayé d'expliquer. Enfin, je n'ai pas donné toutes les démonstrations. Mais justement... ça dépend de l'empilement. C'est-à-dire qu'avec l'empilement...
Quatre se réduisent à deux.
Oui, à condition qu'on tienne compte de l'empilement. C'est-à-dire que le nouage par l'angoisse, c'est le nouage freudien. Quand on prend l'empilement freudien, l'empilement freudien, on a le nouage par l'angoisse et le nouage par l'inhibition.
Oui.
Il y en a, voilà, c'est ça que je veux dire.
Mais ça, c'est en 75 qu'il dit ça, mais pas en 78.
En 78, il ne dit pas que 1, il dit pas que 1, 2, 3, c'est le réel, le symbolique. Il dit 1, 2, 3.
Mais je sais.
C'est une formule générale. Il n'attribue pas au réel, au symbolique, à l'imaginaire, une place dans l'empilement.
Bien sûr.
Donc, dans l'après-coup, on peut relire aussi RSI et le symptôme, les empilements qu'il y a dans RSI et dans le symptôme, grâce à la lettre de 78, enfin en tout cas c'est ce que j'ai essayé de faire, qui, dans la mesure où il dit 1, 2, 3, pour Freud, 1, 2, 3, ce n'est pas le même 1, 2, 3 que pour Lacan. Et en plus, il y a un troisième 1, 2, 3, mais celui-là, il n'en est pas du tout. Voilà.
Oui. Ça, mais non, ce que je voulais relever, c'est que tu as dit qu'il n'y avait que deux sortes de nœuds à quatre. Il n'y en a pas trois.
Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit qu'il y avait deux nœuds à quatre pour un empilement donné. Mais qu'il y a par exemple l'empilement freudien qui en donne deux, nouage par l'inhibition, nouage par par l'angoisse, et l'empilement lacanien qui en donne deux, nouage par le symptôme, nouage par l'inhibition. Et c'est en cela que l'homme autour de Bonneteau m'intéresse, parce qu'on a un passage par la coupure du quatrième, si on peut dire, la dame claque, elle coupe le quatrième, et elle permet un renouage avec le même empilement. On a le même empilement lacanien, si on veut, dans l'homme autour de Bonneteau, avec une coupure du quatrième qui est renouée autrement, la deuxième solution, comme dans la lettre de 78. La deuxième solution étant la solution par le symptôme, la dame en l'occurrence. Voilà.
De l'inhibition au symptôme.
Voilà. Avec le même empilement lacanien, où le réel, attendez, je me trompe, où le symbolique est en dessous, le réel au milieu, l'imaginaire en haut. L'inhibition est un nouage à quatre possible, c'est le quatrième. L'inhibition peut être un quatrième. Supposons que la dame, avec son rêve, coupe le quatrième et qu'il puisse y avoir un renouage, toujours avec le même empilement, par le symptôme. Mmh. En 78, Lacan dit 1, 2, 3. Mais effectivement, si on dit que donc qu'on l'applique à l'empilement lacanien, on a une formule de deux nœuds, inhibition et symptôme. Et si on l'applique à l'empilement freudien, on a une formule de deux nœuds, l'inhibition et l'angoisse.
C'est ça. Mmh. Voilà. Marc ? Non, mais c'est passionnant.
Et je n'entrerai pas dans cette discussion.
Oui. Oh, bah, il suffit de prendre des nœuds, de se casser de s'arracher les cheveux.
Merci à vous, merci à Michel pour ses commentaires. Je vois bien, effectivement, Radou, dans ta question, premier, dernier, du corps, du désir de l'autre, on s'y perd un peu. J'essaie d'être aussi clair que possible. J'ai essayé d'être aussi clair que possible. Je résume mon propos parce que de toute façon, il est tard. Au fond, ce qui m'a semblé, et d'abord à ce propos-là, une première précision, Michel. Si je ne me trompe, les conférences sur Joyce, c'est en juin entre RSI et le Saint-Aume.
Les conférences
sur Joyce.
Non, il y a la conférence qu'il a faite pour le symposium Joyce.
Oui.
Hein, qui est celle qui a été publiée dans l'Anne, qui oui. est orale, qui est orale, qui a oui. été
transcrite par Eric.
Faite oui. en juillet, avant oui. le séminaire.
Oui.
D'accord. Et puis il y a l'écrit qui s'appelle Joyce le symptôme, qui est un oui. écrit. C'est pas oral, oui, et ça, oui. c'est après le séminaire, ça date du séminaire Lune Bévue. C'est à ce moment-là qu'il a écrit. C'est après le séminaire Joyce.
D'accord, c'est donc je vérifie parce que moi, ça m'est donné comme une conférence dans le texte que j'ai, c'est 75, juin 75. Et du coup, évidemment, comme les petites filles entrent dans les petits trous, ça m'a paru vraiment adéquat pour marquer le passage quatrième nom à quatrième symptôme. Là, c'est quand même très très clair, dans la première aussi, première conférence. Et ce sur quoi j'ai voulu insister, c'est l'introduction à ce moment-là par Lacan du partenaire du névrosé comme corps. Le névrosé a toujours eu un partenaire. Il a eu le partenaire du fantasme. Il a eu l'autre. Là, le partenaire devient un corps.
Oui.
Et c'est ce corps hétérogène, hétéros, qui unifie celui qu'il a.
Oui, oui.
Côté homme, ça a un effet de symptôme, donc d'unification.
Oui, oui.
Alors que, effectivement, si une femme se prête à être symptôme du corps d'un homme, ça n'a pas pour elle un effet d'unification.
Oui, tout à fait.
Ça ne manque pas d'effet, là, quand on a assez parlé. Mais tout au contraire de l'unification, il l'a précisé. Alors, la question, Lacan ne répond pas à ce qui fait qu'elle se prête à ça. Il dit ce qui se passe dans ce passage, quand ça ne se fait pas. Elle oui. reste, à ce moment-là, elle reste symptôme premier, c'est-à-dire le symptôme de la salpêtrière, de l'hystérique face au médecin. Qui montre sa paralysie, sa cécité, etc., ses crises convulsives au maître. Et Lacan insiste, ça c'est la différence quand même avec la psychose, c'est qu'elle en reste là, oui. mais elle en reste là parce qu'elle est justement accrochée au fantasme, au désir de l'autre.
Tout à
l'autre
fait.
Est maintenue en place. Et c'est à se vouloir l'objet du désir de l'autre, elle ne peut pas se faire symptôme d'un autre. Et du coup, son corps à elle se réduit aux symptômes qu'elle est, aux symptômes premiers, se réduit aux symptômes qu'encore une fois qu'elle expose face au maître du savoir. Voilà, j'ai essayé de résumer, de reprendre mon propos pour montrer quand même l'importance de l'introduction du corps de l'autre dans l'anatomie lacanienne. L'anatomie lacanienne, c'est un corps. À la Platon, un individu, une unité corporelle, plus un manque, l'objet A, plus le corps de l'autre.
Oui.
Ça qui est amusant, dit comme ça. L'anatomie lacanienne, c'est le corps plus le corps de l'autre. Voilà, je m'arrête là. Alors, je voudrais quand même poser une question qui me tracasse aussi, à Michel. Le quatrième. Alors, il y a deux façons d'en parler. Réparation. Ce qui suppose ratage, échec, erreur, et suppose norme, ou quatrième comme structurellement nécessaire, parce que les trois, il faut bien les nouer. Ils ne sont pas donnés comme ça, ils ne tombent pas du ciel. Et on ne peut pas. Ce qu'on peut faire, c'est réduire le 4 à sa structure ternaire, avec toute une série de manipulations que tu connais beaucoup mieux que moi, en introduisant le quatrième dans les trois ordres, mais il faut partir de trois qui sont dénoués, sans erreur. Ce n'est pas une faute, ce n'est pas une erreur. Ils sont dénoués. Il y a réel, imaginaire et symbolique. La question, c'est comment on les articule. Et pour ça, il faut un quatrième, le symptôme.
On va condenser un peu. Michel, si tu veux répondre à Marc, il y a des participants qui veulent poser des questions. On se donne encore quelques minutes, hein. On n'est pas des couche-tôt là, c'est tellement passionnant.
Oui, Marc, c'est très très freudien, comme je disais, que les trois soient dénoués, soient libres.
Ouais.
Soient libres d'emblée, de départ.
Ouais, ouais,
ouais. D'origine du petit bonhomme, c'est-à-dire ce que Freud appelle la perversion polymorphe infantile, c'est les trois sont pas noués. Mais ce qui n'est plus freudien, là, c'est la question du quatrième, tel que Lacan le reconsidère avec le cas de Joyce.
C'est ça.
Parce que, comme tu dis, il y a deux façons de... et de façon hétérogène, et même antagoniste, allons jusque-là, de considérer cette fonction quatrième, cette fonction de marche-pied, cette fonction escabeau, cette fonction de faire le saut au 4, du 3 au 4. Sautiller, monter la marche. Mais la façon de monter la marche freudienne, et disons, qui est celle de tout névrosé.
La signification phallique.
C'est le tout. Il faut qu'il y ait du tout.
C'est ça, c'est le corps de l'autre qui est comme partenaire sexuel.
Il faut un principe d'universalisation.
C'est ça,
phallique. Qui s'appelle l'Œdipe. Il faut ce principe pour que le nœud se fasse. C'est le postulat freudien, quand même. Un sacré postulat, parce que Freud dit que c'est un rêve. C'est un rêve. Un rêve de Freud, l'Œdipe. Alors, ça veut dire qu'il y a un nœud qui est un nœud de rêve. Un nœud rêvé. C'est le nœud rêvé de la névrose. Mais ce n'est qu'un rêve. Bon, continuons à rêver. Notre Œdipe, bien sûr. Pourquoi pas? On n'a que ça à faire, de rêver. Parce que se réveiller, c'est autre chose. Mais quand même, Lacan, il envisage un autre mode de nouage qui est un nouage où là, il y faut le dire et non plus simplement le père, il y faut le dire. Et là, comme tu l'as dit très bien, c'est autre chose qui est en jeu parce que là, ça se construit. C'est à construire, c'est à faire. C'est pas donné comme ça par l'opération du Saint-Esprit ou du Saint-Œdipe. Tu comprends?
On a deux questions, Colette Solaire d'abord et Anis Tariki après. Colette?
Où est-ce qu'elle est?
Je le dirai bientôt, mais pas aujourd'hui. Ce que je reproche au schématisme borroméen. Mais pour aujourd'hui, je dirais d'abord que je voudrais dire un point, un mérite. Un mérite du schématisme borroméen, Marc l'a évoqué, c'est que le nœud borroméen présentifie et même visualise comment, avec les trois que Lacan a posés dès le départ, on arrive à faire du un. Et ça, c'est très important, et c'est très important historiquement. Historiquement, dans le mouvement analytique lacanien, parce que souvenez-vous quand même comment l'enseignement de Lacan a produit, avant qu'on en vienne à lire ses dernières élaborations, comment ça a produit un mouvement dans lequel on considérait que l'analyse, c'était l'opération du symbolique sur l'imaginaire. Le réel était tellement en sourdine qu'on n'en parlait plus. Et c'est ce qui a même conduit Lacan à parler de la nécessité d'une contre-psychanalyse. D'une contre-psychanalyse pour sortir de l'enveloppement complet dans le symbolique. Donc je crois que le nœud borroméen, avec sa visualisation des trois qui nous mêlent réel de toute façon en présence, c'est un de ses mérites déjà. Alors maintenant, sur la lecture que vous avez faite, je ne m'accorde pas en tout. Bon. En particulier, sur l'idée, Michel, que c'est une vision tout à fait neuve de l'hystérie qu'on a dans la conférence sur Joyce, je ne le pense pas du tout. La thèse sur l'hystérie de Lacan, ça a toujours été que l'hystérie, je vais dire, ne met pas le corps dans le couple. Elle se sert de son corps, certes, elle se sert de son corps, mais pour faire chauffer le désir, en quelque sorte.
C'est ça.
Elle est au niveau du désir. Et ça s'appelait dans les premiers textes des romades. Et là, c'est toujours présent. Et c'est la même chose qu'il redit autrement. Il le redit autrement, mais il dit la même chose. Elle ne met pas le corps, c'est pour ça qu'il dit sa différence avec une femme, c'est qu'une femme met le corps comme événement de jouissance pour l'autre, celui qui l'a. Alors maintenant, ça c'est le premier point sur l'hystérie, je ne suis vraiment pas sûre qu'il y a vraiment du neuf là. Et l'autre chose, alors là, c'est ce que tu disais, Marc, par contre, je ne vois pas ce qui autorise à dire que ça fait le un de celui qui l'a. Ce qui te permet de le dire, c'est qu'il dit l'événement de corps, qui est un événement de jouissance, il le nomme symptôme. Mais ce n'est pas parce qu'on dit symptôme à cette date que l'on désigne le quatrième.
Ce passage-ci.
Non, 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 il n'y a rien dans le texte qui dit ça. Il n'y a rien dans le texte qui dit ça. On peut le discuter, mais dans le texte, il n'y a rien qui dit ça. Il ne dit pas c'est le quatrième du tout. Il ne parle pas des nœuds dans ce truc-là. Il parle de l'événement de jouissance de corps. Et moi, je doute fort que ce soit le quatrième, justement, à ce moment-là de son texte. Et en plus, si tu veux, quand même, cliniquement, il faudrait à l'homme un symptôme femme pour établir le un de son corps.
Pas nécessairement, mais il faut un autre corps.
Il faut un autre corps pour sa jouissance.
Voilà.
Pour sa jouissance. Pour sa jouissance.
Et pour son symptôme, un autre corps. Bon.
L'autre corps est symptôme. Pourquoi dire que ça fait le 1 ? C'est le point que je discute.
Oui, oui, j'entends bien.
Pourquoi dire que c'est le 1, que ça fait le 1 de celui qui l'a ? Je ne vois rien qui permette de l'étayer pour l'instant.
Parce que j'identifie le quatrième et le symptôme. Et le symptôme. Et la femme symptôme comme quatrième.
Tu l'as dit très bien, à la fin du récit, il dit le symptôme quatrième et il dit j'introduis du neuf là. Symptôme quatrième.
Non, c'est dans.
C'est à la fin de RSI, je crois.
Le neuf, c'est dans la conférence. J'introduis du nouveau, c'est dans la conférence.
Donc la parole à
Hans. Oui, dans la conférence sur Joyce, oui. Oui.
À ça.
Mais donc il faut faire attention parce que le quatrième change de statut chez Lacan.
Ah oui, c'est ça.
Une fois c'est le symptôme, une fois c'est le symptôme père, une fois. Et l'événement de corps, symptôme, je l'écris comme M-Y-P-T-O accent, je n'écris pas symptôme. Voilà le point qui est discutable à mon avis.
Oui, oui, bon, effectivement.
Et après, vous répondez tous les trois.
Oh.
C'est les deux seules questions, hein. Et après vous répondez et on conclut.
D'accord.
Tu donnes la parole à Annie, Patrick ?
Oui, alors, c'est à moi ?
Yes.
Bon, alors moi je voudrais revenir, ce débat est extrêmement intéressant.
Pas trop long.
Pas trop long, mais tu me laisses deux secondes quand même. Bon, alors, je voudrais revenir sur quelques remarques sur le quatrième rond, évoqué plus particulièrement par tout le monde, mais par Michel Bousséroux au début. C'est que, d'abord, c'est une nomination de Lacan, le quatrième rond. Il le dit dans les récits. Il va nommer cette fonction du quart-terme, là où ça existe chez Freud, dit-il, avec la réalité psychique, mais où Freud ne les a pas noués. Donc, il fait un nouage qui est une nomination. D'ailleurs, le quatrième, il l'appelle fonction de nomination. Et moi, je voudrais insister sur un point qui n'a pas été évoqué, c'est que ce quatrième terme, il inscrit le dédoublement du symbolique. C'est-à-dire qu'il y a le rond du symbolique qui est dédoublé, hein, c'est la fameuse banane, et qui inscrit un nom du père qui est réel cette fois. Ce n'est plus le nom du père de la métaphore paternelle. Bon. Alors, à partir de là, dans cette fonction de nomination qu'inscrit le quatrième, effectivement, Lacan dit que c'est la nomination qui fait le nœud, qui fait le trou central. Bon. Alors, troisième petit point, c'est que je pense, pour ma part, il me semble important de ne pas opposer le 3 au 4, parce que dans ce nouage par le quart terme, il y a une implicitation du 3 du fait du dédoublement du symbolique. C'est bien pourquoi il inscrit au niveau du quart terme, il maintient l'Édipe, il inscrit le nom du père qui est réel, il maintient l'Édipe et il inscrit le symptôme. C'est pour ça que je questionnerai Michel Bousserou sur sa formule de l'au-delà de l'Édipe, de l'au-delà de l'Édipe qu'inscrirait Lacan avec le quart terme. Moi, je ne le pense pas, mais c'est à discuter. Voilà. Et dernière chose, encore une chose, je tiens beaucoup à ce fait que dans ce nouage par le quart terme, il y a l'implicitation du 3, il me semble que c'est important, et que en ce qui concerne, c'est contemporain d'une phrase très importante que Lacan dit concernant la fin de l'analyse, c'est qu'à propos du nom du père, il faut s'en passer à condition de s'en servir. Voilà, c'était ça que je voulais dire.
Merci. Dans l'ordre, Michel, Muriel et Marc, 2 minutes chacun. Hein.
Par rapport à ce que Colette vient de dire, effectivement, je pense que concernant l'hystérie, il faut quand même être prudent quant à la nouveauté de ce qu'avance Lacan dans cette conférence. En effet, il dit des choses quand même relativement différentes, mais pas fondamentalement différentes, je pense, sur ce qu'il en est du symptôme pour l'hystérique. Par contre, il me semble qu'il y a une thèse qui s'est dégagée pour Lacan dans le cours du séminaire RSI concernant le symptôme, qui est celle d'une femme symptôme. C'est la question du symptôme est, dit, à mon avis, immanente à l'élaboration de Lacan sur la question de RSI. Il produit une femme symptôme en même temps qu'un père symptôme dans le cheminement de pensée de ce séminaire. Donc là, je trouve qu'il y a quelque chose de nouveau par rapport à ce qu'il disait précédemment sur la position féminine. Ensuite, par rapport à ce que vous dites, Colette, ce que tu dis par rapport à le 3 du Borroméen, la particularité du 3 Borroméen qui est de faire de l'un. Certes, c'est bien ça, il s'agit pour Lacan, on peut le dire de multiples façons, c'est que pour faire de l'un avec 3, il faut un quatrième. Mais toute la problématique, c'est s'agit-il de faire de l'un qui fait rapport sexuel ou qui ne fait pas rapport? Or, ce à quoi Lacan en vient, c'est à dire que le borroméen, c'est la question même du non-rapport. Ça ne se noue à 3 que sans rapport entre 2. Sauf que c'est une question qui ne cesse de tarabuster Lacan, puisque jusqu'à la fin de l'ultime, c'est le dernier séminaire, il se pose la question de savoir si finalement ces 3 borroméens ne font pas rapport sexuel. Donc c'est une vraie question pour Lacan.
Bon. Donc,
le dédoublement.
Bon, je ne reprendrai pas la question des 3 nominations hein, sur laquelle Lacan insiste à la fin de RSI, et c'est ce qui va quand même ouvrir sur... Enfin, je trouve intéressant quand même que justement, avec le fameux nœud freudien, ce soit l'angoisse qui soit le quatrième et qui se noue avec le réel. Il y aura peut-être aussi des choses à creuser de ce côté-là. Quant à l'idée du sans-rapport, il y a un nœud où il y a un rapport, c'est le nœud de Joyce, évidemment, qui justement n'est pas borroméen. Et un nœud où le réel et le symbolique sont noués par les épiphanies et qui nous apprend aussi beaucoup sur la clinique, mais pas nécessairement de la névrose. Là. Voilà, c'est tout. Là, ce que j'ai. Bah.
Oui, rapidement, Michel a déjà pas mal répondu. Moi, je voudrais insister sur le même point, juste une affaire effectivement de chronologie. Après, il faudrait reprendre les textes. Fin de RSI, le quatrième s'impose, et Lacan, le corrèle, s'interroge pour savoir s'il faut le corréler au réel, à l'imaginaire, au symbolique, etc. Début du symptôme, le quatrième, ça s'appelle le symptôme. Et effectivement, entre les deux, il place la femme comme symptôme dans notre corps. Après, on va débattre, comme on l'a fait avec Colette, quand on fera un cartel ou un groupe de travail, là, c'est plus possible. Mais j'ai voulu insister juste sur ce point-là, effectivement, me semble-t-il, l'introduction, en plus du désir de l'autre, qui est là depuis le début de l'élaboration lacanienne, l'introduction du corps de l'autre, du corps comme jouissance.
Oui, c'est ça, ben oui.
Oui, oui, voilà. Ben, c'est pas si évident que ça.
On n'a pas besoin du nœud pour introduire la jouissance.
Mais c'est en passant de la jouissance du corps de l'autre. Et c'est quand même en passant par les nœuds, par Joyce qui justement évite le corps à corps, qui est la tentative du névrosé. Joyce évite le corps à corps, Lacan travaille ça et il fait en passant cette incise sur l'hystérie. C'est comme ça que je l'ai lu. Voilà. Merci. Merci à tous en tout cas.
Mais écoutez, il est tard là. Merci à tout le monde. Merci à vous trois. Moi, j'ai trouvé vraiment une soirée exceptionnelle. On est resté longtemps. On n'a pas eu trop de questions du public, mais. Merci encore une fois. Marc, tu lances le cartel, là. Moi, je suis partant. Donc, merci à Patrick pour l'organisation. Et donc, le prochain séminaire école, c'est dans 2 semaines. C'est le séminaire qu'on n'a pas pu faire le 2 avril avec Esther Diderot, Pascal Leray, Jean-Michel Arzur et Karim Barkati sur notre pratique de l'interprétation. Donc, rendez-vous dans 15 jours. Et encore une fois, merci à tous et bonne nuit.
Merci à vous.
Merci aussi.
Bonsoir, merci.
Au revoir.
Au revoir, bonsoir.
Bonsoir.
Pour prendre un pot, ce n'est pas évident. Hein. Allez, on va le prendre chacun. Au revoir.